parce qu'il était motivé et à ce point rempli de l'amour de Dieu qu'il ne faisait que donner. Dans Jean 3,16, il nous est dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Si tu ne donnes pas, c'est que tu n'aimes pas assez. » Ce n'est pas un reproche, je me l'applique à moi-même. Comment se fait-il que je sois capable de voir des gens dans la rue dont normalement je devrais être ému et je tourne la tête, je continue mon chemin? Comment c'est possible? Je suis trop occupé? C'est parce que je n'aime pas assez. Parce que l'amour va me bouger les entrailles au point que je vais vouloir faire quelque chose pour la personne. Et si je n'ai pas d'argent sur moi, je vais lui demander comment elle en est arrivée là et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Ou je vais prier pour elle. Donc l'amour donne. Il donne. Et Jésus a passé sa vie à donner. Oui, ça s'est terminé par le sacrifice ultime, c'est exact. Mais c'est une vie de don. Je ferme la parenthèse parce qu'après je pourrais partir sur autre chose, mais ça fera sans doute l'objet d'un prochain message. Bien, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Il nous, ça tombe bien, il nous a aimé le premier. » Il nous a aimé le premier. Regardez dans Luc chapitre 5. C'est bon pour l'enregistrement, monsieur ? Merci, capitaine. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. « Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Au bord du lac, il vit deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. » Il monta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques de poissons. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Ce sont des pêcheurs professionnels, donc à mon avis, ce n'est pas des petits pointus du port de Nice hein, qu'ils ont. Hein. C'est un beau bateau de pêcheurs professionnels. Remplis les deux au point que le bateau commence à s'enfoncer. Quand il vit, donc c'est un miracle, c'est quelque chose de clairement surnaturel. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il n'y a pas de jeu de mots, hein, c'est un homme pécheur qui pratique le péché. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Donc ils n'étaient pas que quatre, il n'y avait pas juste Simon et André d'un côté, Jacques et Jean de l'autre, puisqu'il nous a dit « et tous ceux qui étaient avec lui », et c'était la même chose pour Jacques et Jean. Donc ces gens-là avaient une entreprise. Hein. Il est bon de lire la totalité de la Bible pour sortir un petit peu de nos façons préconçues de voir les choses, parce que nous on imagine bon, deux gars qui vont avec les filets le dimanche matin à la pêche. Non, c'était des businessmen. Jésus dit à Simon « n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes ». Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivent. Très intéressant de voir que Simon, qui était un type endurci, le miracle l'a transformé. Jésus a parlé un langage que Simon pouvait connaître, pouvait comprendre. Il lui a parlé le langage des affaires. Apparemment, il avait guéri sa belle-mère quelques jours auparavant, ça ne lui avait pas particulièrement parlé. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est pas en voyant que sa belle-mère était guérie qu'il s'est mis à genoux en disant « Oh mon Dieu, je suis un homme pécheur, Seigneur. Éloigne-toi de moi, et surtout de ma belle-mère. » Non. J'espère que les gens qui nous écoutent sur Internet rient également. Je crois que Dieu a de l'humour. Hein. Mais quand il a vu ça, c'est-à-dire un miracle, était un miracle financier, ça lui a parlé. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 2, verset 4, que la repentance est provoquée par l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à changer. Ce n'est pas les coups de bâton. Ce qui me fait dire que ce que Pierre a ressenti au moment où il a vu ce miracle, puisque ça a provoqué la repentance chez lui, ça devait être rempli de l'amour de Dieu. D'ailleurs, c'est quand même curieux, une pêche miraculeuse avec des poissons dans la barque qui frétillent, eh bien oui. C'est la manifestation de l'amour de Dieu à ton égard. Et là, ça a provoqué chez lui quelque chose de très paradoxal. En même temps, la repentance, en même temps, la crainte. Qui suis-je d'après les hommes, d'après les gens? Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. D'après certains, Élie. D'après d'autres, un des prophètes. Donc ces gens-là pensaient, croyaient en la réincarnation sans doute. « Et d'après vous, qui suis-je ?» leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie, c'est-à-dire le Machiar, en hébreu, c'est-à-dire le sauveur qui est attendu depuis l'origine par le peuple d'Israël. C'est toi. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors qu'il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait cela ouvertement. Donc c'était clair. Le plan était clair. Tu as raison, je suis le Mashiach, mais il faut que le Mashiach souffre, meure, ressuscite. Ce n'était pas une parabole, il leur disait les choses clairement. Pierre, notre bon Pierre, le prit à part et se mit à le reprendre. Donc j'imagine la scène. Tout le monde entend ça et lui prend Jésus à part. Je peux te parler. Viens, viens, je peux te parler. C'est pas bon pour le business ce que tu es en train de faire là. Si tu veux que les gens te suivent, tu peux pas leur dire que ça va être souffrance et mort à la clé, hein. Il se mit à lui faire des reproches. Pourquoi ? Parce que Pierre a toujours surfé sur ses expériences avec Dieu pour se croire autorisé à certaines choses, pour se croire privilégié à certaines choses et pour donner son avis. Et Jésus se retourna, regarda ses disciples. Donc c'est du style, ça va être public cette histoire-là. Et dit, réprimanda Pierre en disant, arrière, Satan, c'est-à-dire tentateur, accusateur, arrière, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Donc Pierre, je pense qu'il s'est pris une douche glaciale à ce moment-là. Restez là-dessus, d'accord ? Il vit des choses avec le Seigneur, il vient de reconnaître Jésus comme le Messie. Dans un autre évangile, il nous est dit, et Jésus lui dit, oui, oui, tu as raison, et tu es en plus béni, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux, donc. Là, le Pierrot, il a dû être gonflé à bloc, vous voyez. Première réaction, viens, viens, faut que je te parle. Viens. Moi, j'ai le droit de te parler, viens, 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 puisque je suis quand même, hein. Tu peux pas faire ça. Hein. Et Jésus lui dit, tes pensées, c'est les pensées des hommes. Blum, remise en place. Je vous le lis simplement, enfin je vous le cite simplement, mais au chapitre suivant, dans Marc chapitre 9, vous voyez que malgré cela, Jésus prend Pierre avec lui et deux autres, et ils vont sur une montagne, et là, il est transfiguré, c'est-à-dire, c'est Independence Day qui se déroule sous leurs yeux. D'accord ? La lumière qui éclate, la voix qui parle, il voit Moïse et Élie qui sont en train de lui parler également, et Pierre veut faire quelque chose, parce qu'il faut toujours qu'il fasse quelque chose. Il rajoute son truc. Donc il dit, Seigneur, c'est bon qu'on soit ici. On va construire trois tentes. Comme ça, tu vas pouvoir t'installer en dessous. Plutôt que juste se taire et respecter ce qui est en train de se passer, il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà, il faut qu'il se remonte les manches et qu'il accomplisse une œuvre. D'accord ? Et puis c'est intéressant parce que, suite à cet épisode, dans Matthieu, vous avez... Parce qu'on tape sur Pierre, mais c'est la fête des mères aujourd'hui, donc allons-y. Vous avez la mère de Jacques et Jean qui vient voir Jésus et qui dit « Je peux te demander quelque chose, j'ai une faveur à te demander. »« Oui, qu'est-ce que je peux pour toi ?»« Trois fois rien. »« Je veux que quand tu seras dans ton royaume, mes deux fils soient assis, un à ta droite et un à ta gauche. »« Mes fils !» Et Jésus lui dit, je ne sais pas si tu réalises ce que tu es en train de demander. D'abord, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Est-ce que vous pouvez passer par là où je peux passer? Il dit, oui, oui, on peut. Et je leur dis, oui, c'est vrai que vous allez boire la coupe que je vais boire. Et on sait qu'en général, les 12, ils ont eu une fin, pas celle qu'ils attendaient. Ils sont tous morts en martyr. Mais, pour autant, il dit, ça, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est au Père Céleste d'en décider. Mais à nouveau... Il y a eu ce truc de dire, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, ça les qualifie pour pouvoir faire quelque chose, exiger quelque chose, accomplir quelque chose. Ils veulent sortir du lot par leurs œuvres. J'essaie de vous peindre une image de la réalité C'était des gens. On n'est pas, comment dirais-je, c'est pas un scénario, on n'est pas devant un film. Ce sont des gens comme vous et moi. Jean chapitre 18, au verset 10 et 11, il nous est dit. Alors, je vous peins le contexte quand même. On avance un petit peu dans le temps et Jésus est en train d'être arrêté dans le jardin de Gethsémané. Arrêté dans le jardin de Gethsémané, lui avait dit dès le départ qu'il n'allait pas se défendre. Il fallait qu'il soit arrêté, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il ressuscite. Ce qui d'ailleurs rend complètement stupide l'antisémitisme en disant « Vous avez tué Dieu, vous avez tué Jésus, vous avez tué… » Jésus a dit dès le départ « Mais il faut qu'il en soit ainsi. » Dieu a choisi que ce serait le peuple juif, ça aurait pu être les Aztèques, hein, une peuplade d'Afrique noire, peu importe. Il fallait qu'il en passe par là. Mais Pierre, à nouveau, verset 10, « Alors Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre, qui s'appelait Malchus, et lui coupa l'oreille droite. » Bien. Soit il vise extrêmement bien, soit il vise extrêmement mal. Moi, je pense qu'il n'a pas voulu lui couper l'oreille droite, il voulait carrément lui couper la tête. Donc, on a une image de Pierre, vous voyez, qui est quand même assez impulsive. C'est-à-dire que là, on en vient aux mains, mais ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la sortie des boîtes. Hein. Il sort une épée et il veut carrément couper le serviteur du grand prêtre en deux, dans ce sens-là, vous voyez, entre la tempe et la carotide. Mais il le loupe, l'autre fait un mouvement, mais il y emporte quand même l'oreille. C'est quand même un truc, ça saigne, enfin vous imaginez la scène. Hein. Et Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Ok, donc Pierre l'impulsif. Matthieu chapitre 26. Au verset 69, il nous est dit, à nouveau un petit peu plus loin, alors, je rétropédale quelque peu. Pierre avait dit à Jésus, vous vous en souvenez peut-être, quand Jésus avait annoncé ce qui allait se passer, Pierre avait dit à Jésus, même si tout le monde t'abandonne, moi, jusqu'à la mort, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est-à-dire, à nouveau, le gars compte sur ses propres forces. Sur ses compétences, sur son énergie, sur sa culture, sur sa hargne, sur son caractère. Et Jésus lui dit, avant demain matin, pas dans un an, dans deux heures, avant que le coq ne chante, pas une fois, trois fois tu m'auras renié, jusqu'à la mort. Matthieu chapitre donc 26 verset 69, Pierre était assis dehors dans la cour, donc Jésus est arrêté, il est emmené chez le grand prêtre pour être jugé, une servante s'approche de lui et lui dit « Toi aussi t'étais avec Jésus le Galiléen !» Mais il le nia devant tous en disant « Je sais pas ce que tu veux dire, n'importe quoi !» Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, il y avait des gardes dans la cour, hein, il n'y avait pas qu'une vieille femme en train de se réchauffer, il y avait toute la clique. Hein. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Hé, lui là-bas là, cet homme aussi il était avec Jésus de Nazareth !» Il le nia de nouveau avec serment. Mais sur la vie de ma mère, les yeux de mes enfants, j'étais pas avec lui. Je le connais pas. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement, c'est sûr. Fais voir, t'as trop tombine, toi, fais voir. Toi aussi, t'étais avec lui, c'est sûr. Tu fais partie de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. T'as un accent de Galilée, c'est évident. Alors, il se mit à jurer en lançant des malédictions que je vous épargne. Mais qu'on peut imaginer, hein. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, qu'il avait prophétisé. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Il sortit et pleura amèrement. Maintenant que, parce qu'on a quand même de l'affection pour ce gros bonhomme, maintenant vous imaginez ce qu'il a dû vivre à l'intérieur de lui quand il a entendu le cocorico. Il a dû être brisé. Que sa confiance dans ses propres forces l'ait à ce point trahi, parce qu'il avait énormément d'amour pour Jésus, ça a dû être pour lui une dévastation. Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, versets 1 à 17. Jésus est arrêté, Jésus est condamné, Jésus est crucifié. Trois jours plus tard, Jésus ressuscite et il passe 40 jours avec ses disciples en se montrant aux uns, aux autres, de manière souvent surnaturelle d'ailleurs. Et il s'est déjà montré deux fois aux disciples, en ce inclus Pierre, de manière surnaturelle. Réécoutez le message de la semaine dernière, pour ce moment mémorable où il apparaît en faisant « bouh ». Non, je plaisante. Mais il n'est plus limité. On parle d'un Jésus qui a un corps glorifié. Il n'est plus limité par les portes, par les murs, par la matière, etc. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit qu'il mange quand même à ce moment-là. Donc, bien que non limité, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Pour les Français, ça veut dire quelque chose. Mais, il leur est déjà apparu deux fois, et au verset chapitre 21, il nous a dit « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. » Où sont les autres à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais ils ne sont pas 11, manifestement. Tu dis, le 12e, il est où? Le 12e, il est mort, entre-temps. Il faut suivre un petit peu le film, quand même. D'accord, Judas est mort depuis, mais ils sont 11. Et là, il n'y a pas 11 personnes. Simon, Thomas, Nathanaël, les deux fils de Zébédée et deux autres. Donc, ils sont 7. Simon-Pierre leur dit, « Bon, moi, je vais pêcher. » Je rajoute des mots, des fois, pour paraphraser, mais pour expliquer le contexte. Il a vu Jésus ressusciter deux fois, apparaître, disparaître, souffler sur eux en disant, « Recevez le Saint-Esprit. » Il s'en va. Peut-être il se passe un jour, deux jours, il ne se passe rien. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Jésus leur avait quand même dit « Attendez-moi à Jérusalem, attendez à Jérusalem que le Père envoie. » D'accord ? Et c'était avant son ascension. Ça, c'est le dernier chapitre de Luc. Mais à un moment donné, il ne se passe rien. Donc, il ne se passe rien. Pierre dit « Bon, ben, moi, je vais pêcher. » Il fait ce qu'il savait faire. Ils lui dirent « Bon, ben, nous aussi, on va avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants !» Les enfants. « Vous n'avez rien à manger ?» Ils répondirent, « Non, non !» Ou peut-être même, « Non !» Ils passaient toute une nuit, hein, ils préfèrent dormir. Non, toute une nuit sur un bateau, ils n'attrapent rien. Il leur dit, « Ben, jetez le filet du côté droit. » D'abord, vous imaginez que pour un pêcheur professionnel, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Il y a des sens de circulation autour des barques, les bateaux, ils ont les poissons, ils ont des sens interdits sous la mer. Ah, tu dois passer de l'autre côté. C'est comme dans le métro à Paris, tu sais, tu te prends une amende si tu... Si... Jette le filet du côté droit, du côté gauche. Non, jetez le filet du côté droit. Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, ça c'est à nouveau un mystère pour moi, je pense qu'ils ont dû sentir, ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Donc la pêche miraculeuse, il y en a eu deux, hein. Au moins deux. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, dit à Pierre, « Mais c'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, parce qu'il s'était déshabillé, et il se jeta dans le lac. Donc le gros Pierrot, plouf, il est content, il barbe, « Jésus, Jésus, attends-moi, ne repars pas cette fois-ci », je pense que c'est ce qu'il a dû dire. Mais c'est pas une blague, excusez-moi, je m'imagine les choses. Les autres disciples vinrent avec la barque, pleine de poissons, donc en plus lui il est marrant, il saute et puis il va nager, il laisse les autres ramer pour ramener le... En tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive à environ 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus. Première réaction, tu te moques de nous. Quand tu nous as demandé si on avait quelque chose à manger, nous on pensait que c'est parce que tu voulais quelque chose à manger. Or, il y avait déjà du poisson dessus. Bon, passons. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira seul. Donc vous imaginez la joie, le type il est capable de tirer un filet plein de 153 gros poissons. Donc vous imaginez ce que ça peut donner, hein, un loup ou un truc, je sais pas s'il y a dans le lac de Fred il est où? Frédéric, il y a quoi comme poisson dans le lac de Tibériade?
Des Saint-Pierre.
Des Saint-Pierre. 153, ah ben ça, en plus ça c'est énorme, 153 gros Saint-Pierre avec le 154e qui était sur la rive. et ils tirent le filet tout seuls. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi il rajoute ça? Ça, c'est évident si c'était Jésus. Ce qui me fait dire, je pense, et c'est pour ça aussi que Marie ne l'a pas reconnu à la résurrection. Elle pensait que c'était le jardinier. C'est que le corps glorifié est capable de peut-être de changer de forme, ou il est capable d'être peut-être... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose avec ça. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois qu'il se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Deuxième, donc pêche miraculeuse, 153 gros poissons. Combien pèse un gros Saint-Pierre, s'il vous plaît? Hein? 5-6 kilos? Donc vous multipliez 153, j'avais fait un calcul avec 1 kilo, tu vois, j'étais très très loin du compte. Vous multipliez 153 par 5 kilos, ou même 4 kilos en moyenne, ça va faire à peu près quoi, 600 kilos de poisson à 30 euros le kilo, enfin je sais pas à l'époque combien c'était, mais si c'est du Saint-Pierre bio, à 30 euros le kilo, 600 kilos de poisson, quelqu'un est bon en calcul, 30 fois 600, ça fait 18 000 euros dans la barque. Il a fait son mois. Même en payant les taxes aux Romains. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Shimon ben Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et là, il faut se tourner un peu vers l'étymologie, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Jésus est en train de lui dire, « Est-ce que tu m'agapes ?» C'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel, infini, le même amour que Dieu a pour les hommes? Est-ce que tu m'aimes? Et est-ce que tu m'aimes plus que eux? Vous savez, Pierre, qui était toujours dans le « moi c'est plus, c'est monsieur plus, moi c'est plus que, moi c'est jusqu'à la mort, moi je coupe l'oreille, moi je saute à l'eau, je nage, je barbote. » Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'as capé plus que eux? Il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je te filéo. Tu sais que je t'aime d'un amour amical. Tu sais que je t'aime comme un ami. Tu sais que je suis ton ami. » C'est comme ça qu'on peut traduire. Est-ce que tu m'aimes comme Dieu aime les gens et plus que eux? Il répond, non, je suis ton ami. C'est très très en dessous de la question de Jésus. Dans l'ordre des... dans la gradation de l'amour. Et Jésus ne lui dit pas, ah, ah bon? C'est décevant. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec... Non, non. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Ça veut dire quoi, nourris mes agneaux? Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire berger. Jésus est en train de redonner une chance à Pierre. Il est en train de le réintégrer. Pierre avait renié Jésus trois fois, il était capoute, hors jeu. Et Jésus est en train de lui dire, d'accord, tu as répondu à ma question. Tu m'aimes comme on aime un ami, c'est ça? Oui, mais ça me suffit. Nourris mes brebis, mes agneaux en l'occurrence. Et puis il continue. Il lui dit une deuxième fois, Shimon ben Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'as agapé? Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que je suis ton ami. J'ai de l'amour filéo pour toi. Il lui dit, prends soin de mes brebis. C'est curieux qu'il pose la même question deux fois d'affilée. Enfin, si quelqu'un le fait pour vous, votre patron vous demande. Vous pouvez m'amener le dossier du Schmoll, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, le voilà. Merci. Vous pourriez m'amener le dossier du Schmoll, s'il vous plaît? Mais là, ça choque pas Pierre. Je pense qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'abord, il avait vécu trois ans avec Jésus. Il sait que Jésus ne fait pas les choses tout à fait comme le reste des gens, mais qu'il y a toujours une intention derrière. Il y a toujours un but derrière. Donc, il lui pose deuxième fois la même question. Alors, tu m'aimes comme Dieu aime les gens? Non, Seigneur. Manifestement pas. Moi, je t'aime comme un ami. Donc, il lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Shimon ben Jonas. Alors, en français, c'est as-tu de l'amour dans les trois questions? Mais la troisième fois, c'est est-ce que tu m'aimes comme un ami? La troisième fois, il utilise philéo. Il n'est plus en train de lui dire, alors, tu m'aimes comme Dieu aime les gens? Alors, t'es au-delà des autres? T'es bien supérieur aux autres? Il lui dit, d'accord, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Tu m'aimes comme un ami? Oui, troisième fois. Tu m'aimes vraiment comme un ami? Et Simon, fut attristé, c'est ce qui nous est dit au verset 17, de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour philéo pour moi ?» Il lui a changé la question la troisième fois. Il a été attristé, Simon. C'est comme si Jésus avait baissé ses attentes à son égard, en disant « Bon, puisque tu n'es pas capable, je vais baisser mes attentes. » Mais Jésus n'est pas en train de baisser ses attentes. C'est Pierre qui a fixé la barre trop haute. Il n'a jamais été question qu'on puisse aimer Dieu de la même façon qu'il aime les hommes. Dieu ne nous demande pas de prendre sa place. Il nous demande de faire notre part. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire ? La relation que Dieu, à travers Jésus-Christ, voulait avoir avec Pierre n'a jamais dépendu des performances de Pierre. N'a jamais dépendu de à quel point Pierre allait prouver qu'il aimait Dieu. Et ça a lamentablement foiré, passez-moi l'expression. Il est arrivé au bout de lui-même et il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Et Jésus lui dit la troisième fois, il ne lui dit pas « Ah bon, je suis déçu », il lui dit « Nourris mes brebis ». La même chose que les fois précédentes. Trois reniements, trois confirmations. Pierre est réintégré dans sa fonction, mais est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire, Jésus a posé deux questions pièges à Pierre, les premières fois. Et Pierre n'est pas tombé dans le panneau en disant « Oui, oui, bien sûr, Seigneur, tu sais que je t'aime comme... » Il a admis ses limites. Il a admis à un moment donné de dire « Seigneur, bah, l'expérience a prouvé que je ne suis pas capable de t'aimer comme toi tu m'aimes. » Parce que l'amour de Jésus sur la croix, ça c'est de l'amour agapé. Et Jésus a dit « Tu sais quoi ? Je ne t'en demande pas plus, parce que c'est ça la leçon de l'histoire. Je ne t'en demande pas plus. » On va voir pourquoi ensuite. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a une honnêteté dans la relation entre l'homme et Dieu. Pierre est en train de dire, je ne vais pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne vais pas vouloir accomplir et te montrer à quel point je... Quand vous regardez ce qui se passe ici, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la fin de l'évangile de Jean. On sait que quelques jours plus tard, ils sont à Béthanie, Jésus leur dit d'attendre à nouveau, il leur dit d'attendre à Jérusalem le Saint-Esprit, et on a vu, je vous renvoie vers mon message de la semaine dernière, d'accord, que c'était 10 jours plus tard que le Saint-Esprit a été répandu, 10 jours après l'ascension, et l'ascension de Jésus. Et Pierre a été transformé, pas seulement par le baptême du Saint-Esprit, Pierre a été transformé sur la plage, 15 jours auparavant. En vérité, je pense que Pierre a été transformé quand il a entendu le chant du coq et qu'il a été obligé d'admettre qu'il n'était pas capable d'être au standard de Dieu. Et sur la plage, Jésus manifeste à nouveau son amour, d'abord par un miracle financier, et ensuite par le fait de lui dire, dans cette histoire d'agapé, de philéo, d'amour, etc., trois fois, il lui dit « Tu vas nourrir mes brebis, je vais t'utiliser. » J'ai lu dans un livre d'Andrew Humain, c'est très juste, il disait « Le véritable amour produit le service. » Le service ne produit pas le véritable amour. Et Pierre, c'est l'exemple vivant de cela. Il a voulu servir Dieu, montrer ses forces, montrer ses capacités. Résultat, c'est un échec. À partir du moment où il accepte de se voir tel qu'il est, dans ses limites, qu'il accepte d'arrêter de la jouer avec Dieu, mais de dire « Seigneur, je vais être honnête dans ma relation avec toi », là, Dieu peut commencer à faire quelque chose dans sa vie. J'ai votre attention. Je vois que j'ai votre attention. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, il est capable de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, il est capable, fort de sa faiblesse, il est capable de faire un discours devant 3000 personnes. Lui qui n'avait pas été capable de reconnaître Jésus devant 10 personnes, il a été capable d'annoncer l'évangile devant 3000 personnes. Plus que ça, en vérité. Il y avait plus que 3000 personnes. Parce que les 3000, c'est ceux qui sont rentrés, c'est ceux qui ont accepté l'évangile. Mais la Bible nous dit qu'il y en a plein qui n'ont pas accepté le message qu'ils ont entendu ce jour-là. C'est quelque chose quand même. Sans système stéréo, 3000 personnes, sans micro. Peut-être même 4000, 5000, qui sait. Mais le Pierre de la Pentecôte, ce n'est pas le même Pierre que celui des évangiles. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Vous êtes toujours avec moi ? Bon. Donc la puissance de Dieu peut se manifester à travers cet homme-là. Ça, oui. J'avais entendu il y a des années de ça, il faut que tu sois brisé pour que Dieu puisse t'utiliser. Et ça m'avait un peu perturbé. Brisé ? Ça veut dire quoi, briser ? Allez, bang, bang ! Mais je comprends maintenant ce que ça veut dire. Il faut que j'accepte de me départir de cette vie que je me suis construite, de ce moi qui est omniprésent, de cette carrière, de cette image, de ce système de performance, de compétence en permanence, etc. Mais ce n'est pas qu'au boulot, hein, la performance, la compétence. Dans les couples, il y a des gens qui n'arrivent pas à être honnêtes l'un vis-à-vis de l'autre et à se montrer tels qu'ils sont, parce qu'ils se disent « si jamais l'autre me voyait tel que je suis, il partirait ». Dans les relations amicales, c'est la même chose. J'ai discuté hier avec un ami à moi, qui est un intime du prince Albert de Monaco. Et il me disait « bon, sauf si vraiment je ne peux pas faire autrement, je ne vais plus aux mondanités, parce qu'en plus on n'arrête pas de se retrouver après dans les paris matchs et les machins, donc moi je veux être discret avec ça, ça ne m'intéresse pas ». Mais il me dit « là où par contre j'apprécie de passer du temps avec lui, c'est autour d'une pizza, chez un d'entre nous, où il peut enlever ses chaussures et dire des gros mots. » Voilà, l'idée c'était ça. Et je comprenais ce qu'il voulait dire. Il y a le personnage public, mais il y a celui qu'on est réellement. Et celui qu'on est réellement, on ne peut pas vraiment le montrer aux autres. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et on croit aussi qu'on ne peut pas vraiment le montrer à Dieu. Comment se fait-il que, je vais dire nous, chrétiens, on soit comme ça le dimanche matin et comme si le reste de la semaine. Tu dis « oh, c'est pas vrai ». Ah ouais ? Mets-toi au volant de ta voiture et rentre chez toi. Et attends qu'il y ait un type qui te fasse une queue de poisson ou qui pile devant toi au feu rouge. Le langage chrétien du dimanche matin. Jean-Marc, je suis content de te voir. Es-tu béni ? Tu es béni ? Amen. Nous allons adorer Dieu. Alléluia. Et tu sors. Et il y a ton enfant qui dit « on va au McDo ?»« Non, non, j'ai pas envie d'aller au McDo. »« Papa, on va au McDo !»« Je te dis quoi ?» Comme Pierre, 2 heures plus tard, c'est pour ça qu'on peut pas... C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, le christianisme, ça n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu et il nous appelle à l'honnêteté. Il nous appelle à l'authenticité. Celui que je suis la semaine doit être celui que je suis le dimanche à l'église. Maintenant, si je me dis « non, vraiment là, je peux pas », alors il faut que je change qui je suis, 7 jours sur 7. Et Pierre a compris cette chose-là à partir de ce moment-là. Et c'est là qu'il a pu être utilisé comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. La puissance de Dieu a pu agir à travers cet homme-là. Mais il était intègre, il était devenu honnête. Bien. Donc, la leçon que je tire de cette histoire entre Jésus et Pierre, c'est que je ne peux pas essayer de rivaliser vis-à-vis de Dieu avec l'amour qu'il a pour moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En revanche, ce que nous sommes appelés à faire, c'est recevoir l'amour qu'il a pour nous. Regardez avec moi dans Romains chapitre 5, au verset 3, Romains 5, 3. Il nous a dit bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. En tout cas, c'est ainsi qu'il devrait en être. La détresse ne devrait pas produire l'effondrement. Pour un chrétien, la détresse, un chrétien qui connaît les promesses de Dieu, qui connaît la parole, chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois qu'il y a une tuile, chaque fois qu'il y a une adversité, une opposition, chaque fois qu'il y a un problème à régler, quel qu'il soit, ça devrait entraîner la persévérance. La persévérance, regardez au verset 4, c'est intéressant. Il ne nous est pas dit produira peut-être la victoire dans l'épreuve. Il est dit, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et c'est pour ça qu'on a souvent entendu, la vie avec Dieu, c'est un combat sur un ring contre le diable, ou contre notre chair, ou contre les autres, ou contre, enfin la chair des autres, ou contre les choses de ce monde. Mais si tu ne descends pas du ring, tu gagnes. Il ne faut juste pas que tu abandonnes. C'est un peu ce que tu disais ce matin par rapport à la joie. Tu la médites, tu la proclames, tu la médites, tu la proclames, et hein, il ne se passe rien. Tu la médites, tu la proclames, tu la médites, oh, j'en ai marre. Tu la médites, tu la proclames, et à un moment donné, elle produit son résultat. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Pourquoi ? Parce que la prochaine tuile qui vient, tu peux te référer à tes victoires passées en disant, mais là, Dieu a agi. S'il l'a fait hier, pourquoi il ne le ferait pas aujourd'hui? Si la parole de Dieu est vraie pour tel sujet, pourquoi elle ne le serait pas pour tel autre? Or, cette espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, ça veut dire littéralement faible, malade. Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé, pour des impies littéralement, c'est-à-dire des gens qui se moquaient complètement de Dieu, qui s'en fichaient, ça ne les intéressait pas, ou pire, ils le méprisaient, ou pire, ils étaient rebelles contre lui. Et Christ est mort pour les ennemis de Dieu, pour des gens qui lui crachaient au visage. Ça, c'est une marque de l'amour de Dieu, c'est-à-dire je sais ce que je veux obtenir, c'est-à-dire la rédemption de l'humanité. Et je ne vais pas tenir compte de votre attitude, qui est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas l'amour de Dieu en eux, et je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Christ est mort pour des impies. À peine, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à peine mourrait-on, c'est pas mourrait-on, c'est pas un imparfait, c'est un conditionnel, à peine mourrait-on peut-être pour un juste. Est-ce que tu accepterais de mourir, de perdre ta vie pour sauver celle de quelqu'un? Ben, ça dépend qui. Ça dépend qui. Si c'est quelqu'un de bien, allez, je sais pas moi, Mère Teresa. Je vois qu'elle fait du bien, je vois qu'elle change le monde. Elle. Bon, alors je dis ok, j'accepte de quitter la scène. Allez, pour elle. Mais pour ton voisin, celui qui met la musique à 3h du matin. Ou ton patron que tu ne peux pas supporter. D'accord? Ou pour ton ex-mari. Ou ton ex-femme. Oui, oui, celle qui t'a envoyé l'assignation pour dans un mois à propos de la pension alimentaire. Elle. Est-ce que tu accepterais? Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous, c'est-à-dire je, étaient encore pécheurs. Christ est mort pour moi. Je le mets à la première personne. Christ est mort pour moi. Et cette vérité-là, il faut la méditer. La méditer. La méditer. Pour l'accepter. Pour l'intégrer. C'est pas des paroles en l'air. Dieu a agi. L'histoire prouve son amour pour moi. Elle prouve que la Bible est vraie. Il est mort pour moi. Et l'amour de Dieu, on a vu au verset 5, il est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Oui, 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 je sais que Dieu m'aime. Non, si tu le savais, ça changerait ta vie. Si tu connaissais, c'est-à-dire si tu expérimentais, si tu étais convaincu de cet amour de Dieu pour toi, alors ça changerait complètement ta vie. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une expérience unique. L'amour de Dieu que j'ai expérimenté il y a 25 ans quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je peux l'expérimenter encore aujourd'hui. Je peux encore méditer. Pourquoi c'est infini? Pourquoi il n'y a jamais de fin? Parce que la Bible nous dit Dieu est amour. C'est lui l'amour. Donc, il n'y a pas de fin à Dieu. La grandeur de son amour, la puissance de la rédemption pour moi est infinie. Et je continue à méditer. Je continue à méditer. Bien, au verset 17, il nous est dit « Si par un seul homme, de Romains 5 toujours, par la faute d'un seul, la mort a régné. » Tu dis « Ah oui, Adam. » Ben non, moi je vais te poser une autre question beaucoup plus personnelle. Laquelle de tes fautes a provoqué la mort dans ta vie, dans un domaine ou dans un autre? Il y en a forcément eu parce que la Bible nous dit « Tout le monde a péché. » Est-ce que tu peux penser aujourd'hui à un événement négatif qui a eu lieu à cause de toi? Je ne vous demande pas de lever la main, hein. Mais on est tous concernés. On est tous concernés. Et ce n'est pas pour se culpabiliser, parce que ce n'est pas ça le but de la manœuvre. C'est de comprendre que arrêtons de jeter la pierre aux autres. Arrêtons de regarder Adam en disant « Oh, la faute originelle !» Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je fais mes choix. Et si par... Je vais m'intégrer dans ce verset, d'accord? Si par moi seul, par ma seule faute, la mort a régné dans un domaine de ma vie ou un autre, Ceux qui reçoivent, c'est-à-dire je reçois, avec abondance la grâce. C'est quoi la grâce ? La grâce, c'est pas un espèce d'ange qui vient et qui te touche du bout de son aile, quelques élus comme ça, et d'un coup, hop là, tous les soucis s'en vont. Non, c'est pas ça la grâce. La grâce, c'est la prise de conscience de l'amour que Dieu a pour nous, de sa faveur, de son amour qui est immérité. C'est ça le message de l'évangile. Et c'est ça l'histoire de Pierre et de Jésus. Mais arrête de vouloir mériter. Moi, je sais pas quel genre d'éducation Pierre a reçu, mais je pense qu'il a dû être éduqué dans le style « il faut que tu mérites ». On verra comment Zébédée l'avait... Non, c'est pas Zébédée, lui, c'est Jonas, son père. Comment Jonas l'avait éduqué plus tard. On le saura au ciel, on lui posera des questions. Mais je pense que ça a dû être du style « ne dois rien à personne. Travaille dur, fais pas confiance aux autres, mérite. » Et il a pris cette valise-là et il se l'est traîné jusque dans sa relation avec Dieu. Et ça a été, la leçon, elle a été dure à apprendre. Hein. Mais à un moment donné, Dieu la lui a expliqué. Et ici, il est dit, ceux qui reçoivent avec abondance, donc il y a un parallèle, un contraste, si vous voulez, entre la faute qui fait régner la mort et le fait de recevoir avec abondance la grâce et le don de la justice, c'est-à-dire le cadeau de la justice. C'est quoi la justice ? C'est je suis considéré comme non coupable par Dieu, complètement lavé de toutes mes fautes. Mais ça nécessite de méditer, hein, pour selon ce qu'a été votre vie, ça nécessite de méditer pour accepter cette vérité-là. Je suis coupable, j'aurais dû payer, mais Dieu a envoyé Jésus pour payer à ma place. Et je peux rien y faire parce que c'est l'histoire, c'est du passé. Et soit j'accepte ce sacrifice, même si c'est dur, parce que, vous savez, recevoir l'amour de Dieu, c'est pas évident, hein. Il faut l'aide du Saint-Esprit pour accepter la grâce. On a tendance à vouloir payer pour nos fautes. Mais il faut impérativement accepter. Il nous est dit, à bien plus forte raison dans ces conditions-là, cette même personne qui a commis une faute, elle règnera dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Pas par nos forces, par Jésus-Christ lui seul. Donc Dieu, oui, il nous a aimés en premier. Il nous a aimés le premier. Une dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est dans 1 Jean au chapitre 4. Ça va, vous avez encore un peu de jus ? 1 Jean chapitre 4. Donc, épître de Jean. Au verset 9, il nous est dit, 9 à 11, « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour... » Alors ça, c'est le verset clé de ma prédication. « Consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui, il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Puisque Dieu nous a tant aimés, alors nous devons nous aimer les uns les autres. Mais le problème, c'est quand tu veux forcer pour aimer les autres, alors que toi-même, tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu. Pour toi, tu n'en as pas conscience. C'est peine perdue, c'est Pierre, tu vas à l'échec, c'est évident. Peut-être que tu vas donner le change, peut-être que ça va fonctionner pendant un an ou deux, maximum, mais ensuite, à un moment donné, tu roules à sec. L'amour de Dieu qui n'est pas en toi, tu ne peux pas le donner aux autres. Or, ce dont ce monde a besoin, c'est de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Et toute la logique, si vous voulez, de l'épître de Jean, c'est ça, de 1 Jean. C'est de dire... Arrêtons de vouloir mettre nos performances en avant et de vouloir aimer Dieu. Je vais te montrer. Recevons l'amour de Dieu. Méditons sur l'amour de Dieu. Soyons remplis de l'amour de Dieu. Vous savez, moi, il y a des fois où je suis assis, il n'y a personne autour de moi, je suis dans mon salon, peut-être le matin avant d'aller bosser ou autre, et je me dis à moi-même, Dieu m'aime. Dieu m'aime, moi, Marc. La Bible me dit, je suis son fils adoptif. Je ne suis pas un étranger, je suis son enfant. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Peu importe ce que j'ai fait ou pas fait, il ne me juge pas d'après mes performances. Il ne m'aime pas plus ou moins en fonction de mes compétences, en fonction de mes actes. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Alors selon la semaine que vous avez eue, selon le passé que vous avez, il faut taper régulièrement pour que ça rentre, hein, au bout d'un moment. Mais ça rentre, ça finit par rentrer. Et quand ça finit par rentrer, vous avez 50 kilos qui tombent de vos épaules. Il m'aime. D'abord, Dieu existe. C'est pas une chimère, c'est pas un principe, c'est une personne, c'est le Créateur. Et il existe. Et il m'aime moi. Pas il aime le monde, les hommes, il m'aime moi. De la même manière que tous les autres. Mais là, c'est de moi dont il s'agit. Excusez-moi, je suis très égoïste dans mon temps de relation avec Dieu. Ça me fait une belle jambe de savoir qu'il vous aime, mais moi, en l'occurrence, c'est de savoir qu'il m'aime moi dont j'ai besoin, à ce moment-là. Maintenant, comme je le dis souvent, selon les relations que vous avez pu avoir avec notamment votre père, la leçon, elle peut être dure à accepter. Mais à un moment donné, ça rentre. À un moment donné, ça rentre. L'amour de Dieu vient en premier et il nous rend capables d'aimer les autres. Regardez au verset 16 à 21, il nous est dit « Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Et connaître ici, c'est le terme expérimenter. On a vécu cet amour. Ce n'est pas juste une connaissance. « Ah oui, oui, je l'ai lu dans un bouquin, Dieu m'aime, hein, c'est bien. » Non, non, c'est tu l'as vécu, tu l'as ressenti, expérimenté. « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » C'est en cela que l'amour est parfait en nous, ça veut dire complet, pleinement mature, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Verset 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait, c'est-à-dire l'amour complet, pleinement mûr, accompli de Dieu en toi, va avoir un résultat. C'est quoi ? C'est il chasse la peur. Parce que la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et quand on lit ça, on peut dire « Ah, tu vois, encore une performance, il faut que je sois parfait dans l'amour pour arrêter d'éprouver la peur. » Non, tu es en train de comprendre le verset à l'envers. Si tu n'es pas parfait... En fait, je vais vous paraphraser ce que Jean est en train de dire. Je finis le passage et je vous le paraphrase. « Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous aimons... » Alors, qu'est-ce qui est écrit dans cette verset ? Dans ce... Attends, regarde s'il te plaît, Pierre, au verset 19. Et je ne sais pas si dans votre Bible, c'est la même chose que ce qui est dans la mienne, et peut-être de ce qui va amener verset 19, encore après. Voilà. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Et dans ma Bible, le « l'apostrophe » de « nous l'aimons » est entre parenthèses. Ce qui veut dire que dans certaines versions, et selon les manuscrits qui ont été retrouvés, ce « l'apostrophe » n'existe pas. Et quand vous lisez sans le « l'apostrophe », ça veut dire « pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » D'accord ? Qu'est-ce que Jean est en train de nous dire ici ? C'est exactement ce que je vous explique depuis une heure. C'est que, tout comme Pierre, on a tendance à vouloir accomplir les choses par nos propres forces. Et Jean nous donne la clé ici. Et c'est une clé qui est très importante pour la vie. Il dit, la première chose, le premier effort qu'il faut que tu fasses, c'est de baisser les armes et c'est de te nourrir de l'amour que Dieu a pour toi. Lis-le, entends-le, parle-en, médite les Écritures à son sujet encore et encore et encore. Oui, mais le monde a besoin de moi, le monde attendra. Jusqu'à ce que tu sois rempli, rempli, convaincu de l'amour que Dieu a pour toi. À ce moment-là, tu vas aimer les autres. Nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Tu vas commencer à aimer les autres. Et ce que Jean nous dit, vous relirez tout le chapitre 4 de la première épître de Jean, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a un espèce de cercle vertueux qui commence à avoir lieu à ce moment-là. Je me remplis de l'amour de Dieu, alors je suis capable de commencer à aimer les autres. Que ce soit mon mari, que ce soit mes parents, que ce soit mes collègues, que ce soit le type en bas de la rue. Lorsque je marche dans l'amour de Dieu, vous voyez, ça aussi c'est un truc. On sait en tant que chrétien qu'il est important de marcher dans l'amour. Mais on veut le faire par nos propres efforts. Oui, oui, je sais, il faut que je sois patient. Bon, alors... Mais c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr qu'il faut faire des efforts, mais c'est tellement plus facile quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu n'as pas d'efforts à faire. Rempli de l'amour de Dieu, pour toi, pas pour le voisin. Seigneur, remplis-moi de ton amour pour lui. Mais c'est pas comme ça, c'est pas ça dont je te parle. Il te dit, je vais te remplir de mon amour pour toi. C'est ça l'évangile. Après, tu vas être en mesure de faire, d'aimer les autres. Mais lorsque tu aimes les autres, la Bible nous dit « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Donc c'est un cercle vertueux. Dieu me remplit de son amour, je suis capable d'aimer les autres. Et quand je choisis délibérément d'aider les autres de l'amour de Dieu que j'ai en moi, alors Dieu demeure en moi. Et ainsi de suite. Vous comprenez ? Et ce qu'il nous dit, c'est que ça va avoir deux effets. Un, ça va chasser la peur de notre vie. Et la peur, c'est la racine de tout le mal. La première chose que le diable a faite avec Adam et Ève, c'est de leur faire peur. Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous êtes certain ? Mais si je ne peux plus avoir 100% confiance dans mon Dieu, alors, où va le monde ? Où vais-je ? La peur, ça va être la racine de tout le reste. Quand l'amour de Dieu est parfait en toi, c'est-à-dire quand il se complète, ça chasse la peur au fur et à mesure. Peur d'être seul, peur de mourir, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer, peur de tout ce que vous voulez. Derrière chacun de nos traits caractéristiques ou de nos actions destructeurs, il y a la peur qui se cache. Donc l'amour va chasser la peur. Deuxième bénéfice, il nous est dit, c'est dans Galates 5:6 que la foi est agissante par l'amour. Quand je marche dans l'amour, ma foi devient dynamique. Ce pourquoi je prie, ça marche. Quand j'impose les mains, les gens sont guéris. Tu dis, mais j'ai la foi. Oui, mais tu n'as peut-être pas l'amour. Ah, mais alors il faut que je marche dans l'amour. Non, il faut que tu médites sur l'amour que Dieu a pour toi. Encore, 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 encore. Jusqu'à ce que ça fasse clong. Il y en a qui ont suivi. Réécoutez les messages précédents. Jusqu'à ce que ça fasse clong. Et à ce moment-là, ta foi va devenir agissante, la peur va sortir de ta vie, et ton monde va changer. Vous comprenez ? Si tu te rends compte que ça coince à un moment donné, reviens à la première étape du cycle. Il m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier. Il m'aime encore aujourd'hui. L'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Pas a été, il est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est comme le baptême du Saint-Esprit, cette histoire. Pas une fois pour changer, Seigneur.
Le pasteur m'a demandé de partager avec vous sur les dîmes et les offrandes. Alors, on peut dire énormément de choses hein, sur le fait de donner. Le principe de donner dans la Bible se voit sous de multiples facettes. Mais ce matin, il y a vraiment, quand je demandais au Seigneur qu'est-ce que je pouvais apporter de plus, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur le fait de donner. Et c'est le verset dans 2 Corinthiens 9, 7 qui m'est vraiment venu. Et on reste dans la lignée de la louange, puisque c'est le verset qui dit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Alors, j'ai une responsable de service qui m'apporte beaucoup. Ça fait 20 ans que je travaille avec elle. Et c'est quelqu'un qui se demande toujours pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? On fait les choses, mais pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Et ce matin, ce que je voudrais qu'on se pose comme question, c'est pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on donne ? Et pourquoi est-ce qu'il veut qu'on donne avec joie ? Et je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Moi, je me la suis posée, parce que Dieu aurait pu dire « je veux que tu donnes, point ». Et je pensais, vous savez, que dans la Bible, quand on lit des versets, les mots qui sont employés, chaque mot a une valeur. Et chaque mot a été mis là exprès. C'est pas « tiens, on aurait pu en mettre un autre ». Si ce mot a été mis là, il a été mis là. Et quand Dieu dit que Dieu aime celui qui donne, je me suis dit, ok, donc je dois être quelqu'un qui donne. Mais la question que je me suis posée, c'est, dans la mesure où on porte le nom de Christ, est-ce que Christ lui-même, puisque je veux être un imitateur de Christ, d'après ce que dit la Bible, quand je deviens chrétien, c'est est-ce que Christ lui-même a été quelqu'un qui a donné ? Et je me suis dit, oui, combien Christ a été quelqu'un qui a grandement donné ? Parce qu'il est dit que Dieu a donné lui-même. Ce qu'il avait le plus précieux, c'est son fils. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Hein. On peut imaginer que donner son fils, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas donner quelque chose qui a plus de valeur. Donc Dieu a donné. Et ensuite, quand j'ai pensé à Jésus, je me suis dit, est-ce que Jésus a donné ? Mais lui, il a donné sa vie. Ça veut dire, est-ce que moi, je suis prête à donner ma vie ? Peut-être, il faudrait vraiment que ça en vaille le coup. Hein. du style, il y a un avion avec 350 passagers, et on me dit, si toi tu meurs, tous les autres sont sauvés. Bon, je vais réfléchir. Mais Christ a donné, et il a donné sa vie, et on a vu combien son don a multiplié. Vous avez vu combien de chrétiens il y a sur terre parce que Christ a donné sa vie, une personne a donné sa vie, et des millions de chrétiens. Je pense que si le diable avait su ça, il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais tenté de vouloir supprimer Jésus parce qu'il pensait qu'en éliminant Jésus, bah, Dieu avait perdu la partie d'échec et que ça en serait terminé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en en éliminant un, tous les autres pions allaient arriver derrière. C'est nous. Et le premier point, c'était de donner. Ok, donc si je vois que Christ a donné, vous savez, quand on est prêt à donner sa vie, si je dois donner ma dîme, si je dois donner une partie de mon argent, comparer, c'est rien. Franchement, c'est rien. Mais le point qui m'a le plus interrogé, c'est pourquoi est-ce que Dieu veut que je donne avec joie? Et je me suis vraiment remise en question en me disant, est-ce que ça fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 28 ans que je marche avec le pasteur Marie-Hélène Moulin dans cette église. Donc, vous savez, à un moment donné, quand vous donnez, les offrandes passent, et puis vous donnez, et puis vous donnez, à la limite, il faut vraiment faire attention pour que ça ne devienne pas quelque chose de machinal et quelque chose qu'on fait par habitude. Alors, on a des automatismes. Hein. Le matin, tu as l'automatisme de te brosser les dents, tu as l'automatisme. Et quand le panier passe, tu as l'automatisme de donner quelque chose dans le panier. Et je me suis vraiment remise en question parce que je me suis dit, mais est-ce que tu le fais avec joie? Et je me suis dit, je crois que je peux améliorer ça. On peut être un peu plus performant dans ce domaine. Et parce qu'il est dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et vous savez, il y a eu des périodes de ma vie où ça a été très facile de donner. Et il y a eu des périodes de ma vie où alors c'était vraiment, ouh, je suis un peu sur une île flottante. Hein. Si je donne, qu'est-ce qui va se passer? Mais comme j'ai compris que Dieu est quelqu'un qui donne, alors je donne et je ne me pose à la limite pas la question. Et ça me permet, quand je suis dans un moment de creux, financièrement, de pouvoir me dire, tu sais quoi Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que j'ai obéi. Et du coup, ce n'est pas mon problème. Dieu pourvoira. Et je peux me dire en moi-même, Dieu pourvoira parce que j'ai fait ma part et je sais que j'ai obéi. Et le fait de donner avec joie, ça me donne de la force. Vous connaissez ce verset qui dit, la joie du Seigneur est ma force, on l'a chanté tout à l'heure. Et je me suis dit, quel rapport est-ce qu'il y a entre la joie et la force? Alors, si vous permettez, je vais vous lire, le matin, je vous encourage, quand vous êtes pressé avant d'aller au travail, il y a un petit livre qui s'appelle « Le triomphe de la foi » qui est sorti depuis pas mal d'années. Et c'est un peu comme quand tu n'as pas le temps de faire un vrai repas et que tu prends un petit snacking, un petit encas. Et ce sont des réflexions des pasteurs Kenneth et Gloria Copeland. Et je voudrais partager avec vous, ils disaient ce jour-là, j'ai lu, n'oubliez pas la joie. Et les pasteurs Copeland partageaient le fait qu'un jour dans leur vie, ils ont résolu que la parole de Dieu serait l'autorité finale dans leur vie. Et puis, quelques temps après, dans leur croissance avec Christ, ils ont résolu que non seulement la parole de Dieu serait l'autorité finale, mais qu'ils ont résolu de marcher dans l'amour. Et quelques temps après, ils ont résolu de marcher par la foi. Et ils partageaient ceci avec ce passage. Donc, je vais vous le lire, j'espère que ça va vous encourager. Il disait, ces deux décisions, agir par la foi dans la parole de Dieu et marcher dans l'amour, sont les deux décisions les plus importantes de ma vie. Récemment, cependant, Dieu m'indiqua quelque chose que j'avais laissé de côté, la force de la joie. Il me dit que je n'avais pas le droit de marcher par la foi et dans l'amour et de laisser la joie dormir dans mon esprit. Elle est trop importante. Alors qu'il m'enseignait à ce sujet, je réalisais bientôt que la joie est une part essentielle de la vie de victoire. Sans elles, je peux avoir des triomphes occasionnels ici et là, mais je ne serai pas capable de les maintenir longtemps. Elles me glisseraient bien vite entre les doigts. Voyez-vous, la joie, c'est ce qui donne la force. La force de rester ferme lorsque les circonstances deviennent difficiles. La joie vous permet de rire à la face du diable lorsqu'il essaie de vous bousculer hors de votre foi. La joie vous donne une sorte de pouvoir permanent qui vous rendra vainqueur à chaque fois. Aussi, prenez l'engagement envers Dieu de marcher non seulement dans la foi et dans l'amour, mais aussi dans la joie. Fixez-vous comme but de vous réjouir toujours dans le Seigneur et il n'y aura rien que le diable puisse faire ou dire pour vous voler la victoire qui vous appartient. J'espère que ça vous a encouragé parce que, vous savez, il est dit que, effectivement, il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la joie, j'ai réalisé que c'est vraiment une arme et ça fait partie de l'équipement du chrétien. Tout à l'heure, comme je le disais pendant la louange, tu vas décider d'aimer ton mari ou tes voisins ou quelqu'un auprès de toi et ça va être volontairement que tu vas le faire parce que les circonstances parfois vont te dire oh, j'ai pas envie de l'aimer, mais tu vas prendre la décision. Mais tu peux le faire également avec la joie, c'est-à-dire que tu peux décider, je vais être dans la joie, même si mon âme est triste, même si mon âme, comme on l'a chanté, est accablée, eh bien, je vais décider d'être dans la joie. Tu sais quoi? Je vais le décider. Et quand je vais donner mes dîmes et mes offrandes, je vais le faire dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai l'espérance de la récolte et j'ai la joie qui est ma force. Amen. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut être servi, s'il vous plaît? Et ensuite, on va déclarer, si vous voulez vous lever. On a l'habitude dans cette église, pour ceux qui nous rejoignent, qui sont là pour la première fois, on a fait un petit mixte de différents versets sur les bienfaits justement de donner, les promesses de Dieu concernant les finances. Alors ensemble, pour ceux qui sont d'accord, on va le confesser ensemble. Conformément à la parole de Dieu, je crois que tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée a été pourvu à la croix. Je suis béni en Christ et oint pour prospérer. En apportant à Dieu mes dîmes et mes offrandes, je libère ma foi, car la foi sans les œuvres est morte. Je reçois proportionnellement une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ainsi, je déclare que je suis libéré des dettes, des crédits. Je n'emprunte pas. J'ai la faveur avec tout le monde. Tout ce que j'entreprends réussit. De superbes opportunités s'offrent à moi. Des bonus, des primes, des augmentations viennent à moi. J'ai la sagesse pour gérer les biens matériels. Je suis si béni que je peux donner pour de bonnes œuvres. Je démontre la générosité de Christ afin que son nom soit glorifié. Que les anges de Dieu aillent et exécutent ses paroles. Amen.